Autre radio, autre culture, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Laurent Courreau. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Laurent est auteur, réalisateur de documentaires et de fictions. Et nous allons parler de tout ce qui a fait sa vie, qui me semble d'ailleurs une vie très trépidante.
Je ne m'avancerai pas sur le sujet.
Avec la participation de Christophe Bouillot. Bonjour,
bonjour
Christophe.
Bonjour Marion, bonjour Laurent.
Prêt avec tes questions?
Évidemment.
Évidemment. Alors, j'ai été très étonnée parce que j'ai un petit peu regardé ta biographie et tu as eu une enfance excessivement nomade. Est-ce que c'est ce qui a agi un petit peu sur ta vie future et sur tes choix?
Ouais, je pense qu'effectivement l'enfance nomade donc s'est déroulée autant en Europe hein, entre l'Espagne, l'Italie, le sud de la France, Paris, d'autres endroits encore, hein, et puis ensuite l'Afrique du Nord, hein, le Maroc, la Libye. La Libye étant un pays assez particulier déjà à cette époque, hein, et puis ensuite l'Inde. Hein. Effectivement, déjà on se situe dans une dynamique spéciale puisque tous les ans à l'école hein, on est le nouveau. Donc on est différent, on est l'étranger, celui qui arrive, hein. Donc on est toujours un petit peu à part. Hein. Et à un moment, j'ai eu moi-même cette réflexion, je me suis dit qu'effectivement c'était forcément lié, mon intérêt pour les gens qui étaient un peu à part, les marges hein, et la différence, hein, devait effectivement trouver ses sources quelque part par là.
Est-ce que le surnaturel, je dirais pas le surnaturel, le mysticisme et un petit peu la magie qui peut exister dans ces pays, t'ont touché même enfant? Est-ce que t'en as eu vent?
Enfant, j'en ai eu vent. Je me souviens notamment d'une visite de temple à Madurai, en Inde. Enfin, suite à cette visite, je pense qu'on était arrivé. Enfin, les souvenirs sont un peu vagues. Hein. Je devais avoir 8 ans, 7-8 ans. Et à la fin de la visite, on a dû arriver dans une pièce du temple, centrale de mémoire, hein, où les brahmanes préparaient un rituel. Hein. Mes parents ont dû sortir de la pièce hein, et les brahmanes m'ont invité à rester. Et donc j'ai assisté à ce rituel auquel j'ai strictement rien compris, bien évidemment. Mais j'ai vraiment des images assez précises, effectivement, du rituel, des flammes, de toute la décoration, ainsi de suite. Donc je pense que oui, ça a pu me marquer. Maintenant, ceci dit, dans ce que j'ai pu faire par la suite, finalement, je me suis relativement peu intéressé au mysticisme hein, et à l'ésotérisme, hein, jusqu'à ma rencontre des vampires en 2002. Donc là, je suis revenu sur cette dynamique, hein. Mais finalement, avant, j'étais beaucoup plus dans la suite, dans une continuation de ce qu'était la cyberculture, le cyberpunk. Hein. Donc il y avait pour certains, dans ces mouvances-là, une part de mysticisme, hein. Mais dans ce qui m'intéressait plus personnellement, c'était pas si présent. Donc finalement, ça a été une sorte de boucle qui s'est bouclée relativement tardivement dans mon cas.
En revanche, tu arrives en France, tu as quel âge? Puisque tu as une dizaine d'années, 12 ans?
Oui, une dizaine d'années à peu près, ouais.
Une douzaine d'années.
Pré-adolescent, on va dire.
Et hein. Comment, quand on est enfant et qu'on a connu un petit peu tous ces voyages dans des pays orientaux, comment se passe l'arrivée à Paris? Comment on la vit?
Enfin, enfant, je faisais tout le temps des allers-retours entre Paris et l'étranger. Donc je suis né à Paris, ensuite je suis parti à Rome, ensuite revenu à Paris, ensuite au Maroc, ensuite revenu à Paris, ensuite en Libye et ainsi de suite. Hein. Donc finalement Paris n'était pas un univers qui m'était si étranger. Après Paris, début des années 80, ado, enfin pré-ado, c'était une période qui était assez particulière. Hein. Par le biais de je sais pas quoi d'ailleurs, j'imagine, des grands à l'école, hein, quand je suis rentré au collège, hein, de ceux qui étaient au lycée, j'ai tout de suite vu quelque chose qui m'interpellait, c'était le mouvement punk, hein, la seconde vague du punk du début des années 80 qui était en pleine explosion sur la région parisienne, hein, en France, hein, et ça m'a interpellé, donc du coup je me suis connecté à quelque chose de très très urbain, le punk de cette époque-là, tout de suite. Hein. Ce qui fait que, finalement, il y a une sorte de transition assez évidente, assez immédiate. Hein. Et je me souviens d'avoir acheté en vacances en Angleterre, à l'âge de, je pense, 11 ou 12 ans, l'album des Sex Pistols. Hein. Et pour moi, c'était une... Enfin voilà, il y avait une espèce d'évidence. Finalement, il n'y a pas eu de scission ou de clivage hein, entre deux univers, deux vies, un côté, effectivement, beaucoup plus marqué par la nature, les traditions, enfin, ce que j'ai pu vivre à l'étranger, et ce que j'ai vécu en arrivant à Paris. Ça a été assez direct. Est évident.
Est-ce que tu as été intéressé au niveau musical, non seulement par les punks, mais par tout ce qu'on appelait la cold wave, la new wave, cold wave, enfin surtout la cold wave, qui était surtout présentée par les groupes allemands?
En l'occurrence, pas du tout. Parce que la cold wave avait un côté assez gris et dépressif.
Hein, oui, exactement.
Qui, justement, ne me touchait absolument pas. Ce que je recherchais dans le punk, c'était beaucoup plus l'énergie, la dynamique, hein, la vitesse, la rapidité. D'ailleurs, pas du tout le côté défonce et violence du punk qui m'a toujours un peu cassé les pieds. D'ailleurs, je me suis beaucoup plus reconnu encore plus tard quand finalement le hardcore américain est arrivé en France, avec des groupes qui avaient une attitude qui était différente, on va dire plus positive, beaucoup moins autodestructrice, plus marquée par le sport, des looks éventuellement moins extrêmes, mais encore plus d'énergie, encore plus de dynamique, encore plus de réseaux souterrains qui se créaient avec des fanzines, des groupes qui tournaient dans l'Europe entière. C'est vraiment là-dessus que je me suis senti bien, que je me suis senti chez moi, à l'aise.
Il semble également que le monde de la BD, du fanzine, t'ait beaucoup attiré. Pourquoi ?
Déjà, gamin, dès l'âge de 12-13 ans, j'étais vraiment fan de publications des années 80 comme Metal Hurlant, Actuel, tous les dérivés qu'il y a pu avoir autour de Metal Hurlant et d'Actuel. Donc vraiment, ça m'intéressait, en fait, je le disais, c'est vraiment ça avec beaucoup de curiosité, même la forme des magazines, la manière dont ça se fabriquait. Enfin, j'étais vraiment là-dedans. Et puis dans les années 80, bien sûr, on n'avait pas Internet. Il y avait juste le début des radios libres. Mais en l'occurrence, c'était plus la forme imprimée, visuelle, écrite qui me titillait. Donc le fanzine, finalement, c'est une évidence. Les photocopieuses sont arrivées au début des années 70. Mais il a fallu attendre le début des années 80 pour que ça soit vraiment employé par l'underground. Donc il y avait cette espèce d'explosion. Alors c'était assez drôle parce qu'à l'époque, un fanzine qui était tiré à, je sais pas, à 50 exemplaires pouvait avoir une résonance énorme. Donc quand on compare aux chiffres actuels, c'est ridicule. Mais 50 exemplaires, j'imagine que chaque exemplaire était lu par 5, 10, 15, 20 personnes dans les appartements, ça circulait. Donc voilà, donc le fanzine effectivement était quelque chose de totalement évident. Et dès que j'ai pu me coller là-dessus, enfin en plus c'était pas si évident à l'époque non plus, parce que encore une fois, on n'avait pas d'ordinateur, j'avais pas de machine à écrire sous la main, donc il fallait vraiment inventer toute une grammaire particulière.
Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs ce qu'est le mot fanzine, ce qu'est un fanzine ?
Finalement, c'est quelque chose qui est fait par des fans. Enfin, je veux dire, l'essence de fanzine, c'est fan. Donc c'est vrai qu'au départ, c'était beaucoup, beaucoup axé sur la musique, sur des courants musicaux, sur des groupes particuliers. Et puis après, il y a eu toute une espèce d'excroissance. Ces groupes étant politisés ou défendant des causes particulières, ça s'est étendu. Et puis voilà.
Quels étaient tes groupes de cœur, dirais-je, à cette époque-là, au niveau du fanzine ?
Mes groupes de cœur, de toute façon, il y avait évidemment une partie de la première vague punk autour des Sex Pistols. Ensuite, j'ai tout de suite beaucoup aimé, parce que c'est plus ma génération quelque part, la seconde vague du punk anglaise, avec des groupes, beaucoup plus des groupes de la rue, comme The Exploited, les Cockney Rejects, qui se rapprochaient du mouvement Oi et même du mouvement Skinhead, sans être politisé. Et puis ensuite, encore une fois, après, il y a eu le hardcore, et des groupes qui ont un peu effectué une transition, comme les Dead Kennedys, des groupes comme Black Flag. Voilà, après, j'aurais du mal à le dire, je crois que j'ai encore ma collection de vinyles dans une cave quelque part, de cette époque-là, et je crois qu'il y en a 600 ou 700. D'album, donc j'étais assez, assez excité sur la chose.
Est-ce que cet amour, finalement, cet intérêt pour les groupes de punk t'ont tourné tout naturellement vers l'underground ?
Ah oui, pour moi, la transition était évidente. De toute manière, dans le punk, il y avait vraiment une remise en question du système, il y avait vraiment une remise en question des normes, des modes de vie majoritaires. Donc tout ça allait de soi. De toute manière, même gamin, sans être forcément hyper looké en l'étant un petit peu, à cette époque-là, on se rend plus compte aujourd'hui. Je veux dire, on peut voir, aujourd'hui, en allant chez Carrefour, on peut voir une caissière qui a une coupe de cheveux en brosse, avec les cheveux colorés, en rouge ou en turquoise. À cette époque-là, sortir avec les cheveux colorés, c'était la quasi-assurance de se faire casser la gueule au premier carrefour.
À part pour les grands-mères qui avaient les cheveux violets.
Et encore, on les trouvait plus en Floride qu'en France.
Il y en avait
quelques-unes. Donc de toute façon, il y avait de facto une prise de position. Mm-hmm. Enfin, il m'est arrivé une fois, gamin, d'avoir un problème dans la rue avec un touriste allemand. C'est simplement parce que j'avais un vinyle sous le bras et il y a une compilation, il y a marqué punk en gros et le type m'avait giflé juste pour ça.
Ah oui.
Donc voilà, aujourd'hui ça semble complètement aberrant, mais il y avait vraiment une dureté dans les rapports qui n'était pas la même. On nous parle beaucoup de la délinquance actuelle, mais les années 80 n'étaient pas si tendres.
Donc tu es dans les années 80, tu commences à fréquenter l'underground. Par rapport à maintenant, est-ce qu'il y a une évolution importante de ce qui était l'underground, ce qu'on appelle l'underground ? Parce qu'on a toujours vision de l'underground avec Andy Warhol au niveau américain.
Bien sûr.
Mais au niveau français, qu'est-ce qui se passe ?
Je dirais que, enfin, est-ce qu'il y a une évolution? Alors, tout a changé, tout a été révolutionné, tout a explosé, tout a muté, tout a dévolué, tout a... Enfin, bon, je veux dire, c'est vraiment un autre monde. De toute manière, la transition qui s'est opérée au début, milieu des années 90, hein, avec le numérique, a tout fait voler en éclats. Que dire de l'underground dans les années 80? Moi, j'ai eu la chance d'arriver finalement, de commencer à être actif à partir de 85-86, la seconde partie des années 80. Dans mon expérience personnelle, parce que je ne vais pas faire une théorie de l'underground de cette époque-là, parce que justement, c'est immense et énorme. Hein. Donc, on pourrait y passer des heures. Hein. Donc, j'ai eu la chance assez vite de travailler comme porteur de câble, comme Roddy, pour une structure de sonorisation parisienne, hein, qui était dirigée par un personnage qui s'appelait François de Cruc. Hein. François, à la base, avait de quoi sonoriser un mariage avec deux enceintes. Hein. Et il avait accepté, je pense que c'était un hasard complet, de sonoriser un concert de Berruriers Noirs, hein, dans un squat parisien, enfin dans un squat de Montreuil qui s'appelait L'Usine, hein, qui est assez mythique. Hein. Et voilà, de là, les membres du groupe, hein, lui sont restés fidèles. Hein. Donc le groupe, en évoluant, en gagnant en popularité, a toujours continué à travailler avec François. Ensuite, il y a eu toute la mouvance alternative autour des Berrues qui aussi a travaillé avec François. Et de fil en aiguille, donc moi j'ai rejoint la structure de François comme petite main. Et on a eu la chance de sonoriser tout ce que les autres ne voulaient pas faire à cette époque-là. Donc globalement, on a eu toute la scène alternative. On a eu les débuts du hip-hop, hein, en France. Je me souviens d'un concert de KRS-One avec NTM, et je crois qu'il y avait même IAM, hein, les deux groupes se parlaient encore à l'époque, hein, qui était à Saint-Denis, qui avait fini en émeute totale. Hein. Enfin, on a vraiment eu la chance de vivre ces moments merveilleux. On a fait aussi les débuts des raves à Paris, les débuts de la techno, notamment une rave complètement illégale, hein, également mythique dans les sous-sols de la Défense, encore en construction à ce moment-là. Les premiers sound system raga et reggae. Enfin voilà, donc c'était une explosion. Et l'autre truc qui était assez dingue à ce moment-là, c'est que les tribus se mélangeaient. Donc on pouvait, ça nous arrivait de, je me rappelle très bien, de sonoriser des fêtes organisées par un personnage proche d'Actuel et de Nova, Mike Byfall, hein, à l'étage supérieur Dynasty Mixé, donc grand DJ de hip-hop des années 80, et puis toujours d'ailleurs. Hein. À l'étage inférieur, il y avait une salle, hein, de concert, hein, sur la scène s'enchaînaient les Sai-Sai, un groupe de raga parisien, avec des groupes de rock alternatif et de punk. Hein. Et tout ça se passait dans la meilleure ambiance du monde. Hein. Et on avait vraiment toutes les tribus qui se mélangeaient, avec des sons différents dans tous les sens. Hein. Donc voilà, il y avait vraiment une mixité, une richesse. Hein. Je dirais que peut-être pas toutes les semaines, mais presque tous les mois, il y avait un nouveau son qui arrivait, un nouvel apport visuel, quelque chose. Hein. Donc c'était vraiment riche, dense, hyper dynamique. Hein. Et c'était une belle époque. Hein. Après, je pense, enfin, j'ai un peu le sentiment que beaucoup de choses se sont codifiées à partir de cette époque, hein, peut-être un peu figées, et par la suite, on a eu beaucoup d'évolutions de ce qui s'est passé, enfin beaucoup de suites, hein, à toute cette explosion de la fin des années 80, mais peut-être moins de renouvellement radical. Hein. Après, ça s'explique aussi, à mon avis, il y a certaines raisons assez évidentes, hein, et notamment, cette époque-là correspond aussi au début de la micro-informatique personnelle. Hein. Donc c'est là que les gens ont pu, pour la première fois, s'acheter un ordinateur, hein, avoir des logiciels, hein, avec lesquels ils pouvaient faire de la création. Et donc ça a généré effectivement toute une nébuleuse de modes d'expression et de courants différents.
Donc ça serait plus riche actuellement, malgré les codifications, ou au contraire, ça devient beaucoup plus personnel, beaucoup plus indépendant, et du coup on a presque des œillères dans chaque branche?
Non, je dirais pas. Enfin, là aujourd'hui, mais encore, c'est pour d'autres raisons. Je pense qu'il y a un repli sur l'individu et il y a un repli sur l'ego et le narcissisme, hein, qui me semble assez clair. Hein. Alors après, il y a différentes raisons à ça. Encore une fois, je pense que les réseaux sociaux sur Internet sont loin d'être innocents dans cette histoire. Hein. Après, je pense pas qu'on puisse dire qu'une époque était plus riche qu'une autre. Hein. C'est juste extrêmement différent. J'aurais du mal à faire des comparaisons aussi directes et aussi tranchées.
Alors les années se passent et tu sembles intéressé de plus en plus par un underground qui est un peu particulier. On a l'exemple des vampires, mais je pense que tu dois t'intéresser aussi à d'autres,
bien sûr, hein,
d'autres castes, je sais pas comment on peut appeler ça, d'autres groupes. D'autres,
oui, enfin à la rigueur, le terme anglais qu'on a tendance à préférer, finalement c'est le terme de subculture. Hein. Opposé finalement, ce qui était usité en France avant, qui était sous-culture, hein, où là, éventuellement, il peut y avoir une espèce de vision qualitative. Hein. Donc, subculture, ça nous va très bien. Enfin, moi, finalement, ce qui s'est passé, c'est que suite aux années 80, il y a eu l'arrivée de la micro-informatique. Hein, il y avait déjà à l'époque des auteurs d'un mouvement littéraire qu'on appelait le cyberpunk, hein, qui mélangeait les nouvelles technologies avec la rue. Ça a vraiment été leur apport dans la science-fiction. Donc là, quelque chose s'est mis en place. Hein. Et finalement, très peu d'années après, on a vu leur imaginaire s'incarner sous nos yeux, avec l'arrivée d'Internet, hein, qui était déjà finalement quelque part le cyberespace tel que l'avait écrit William Gibson. Hein. Donc voilà, et puis bon, moi je suis parti sur la spirale, hein, qui au départ était une lettre d'info photocopiée, et, imprimée, enfin tirée à 3000 exemplaires et distribuée gratuitement. Et l'idée de la spirale, c'était de parler d'autre chose que de musique. Hein. Donc de parler de phénomènes culturels, mais pas musicaux. Déjà parce que les groupes en interview ne sont pas forcément brillants et hyper intéressants. Enfin, les anecdotes de tournée, ça va au bout d'un moment. Ouais. Savoir quel ampli guitare ils utilisent, je m'en fous complètement. Quoi. Voilà. Donc ça me semblait pas mal de partir sur d'autres trucs hein, qui finalement n'étaient pas tellement représentés au niveau de la France. Hein. Et puis après, il y a eu la transition vers la spirale, le site, la première version du site en 95 ou 96. Hein. Je ne m'en souviens pas vraiment moi-même. Hein. Enfin, je ne me souviens pas de la date exacte. Hein. Et là... grâce à Internet, on a pu effectivement avoir un contact direct avec plein de gens, dans plein de tribus, dans plein de cultures, dans plein de grands différents. Et tant, je sais pas, bah, j'imagine que ça va être ma curiosité naturelle. Hein. Du coup, je suis parti un peu piocher dans tous les sens. Hein. Ce qui fait qu'il y a une... Ouais, il y a pas mal de diversité. Je veux dire, il y a, comme me l'avait dit un interviewé d'ailleurs, en regardant la spirale avant d'accepter, il m'a dit c'est drôle parce que tu t'intéresses à des gens qui pourraient juste pas se supporter dans une même pièce. Hein. Mais personnellement, au contraire, je pense que ça fait la richesse et, du site et puis mon bonheur. Hein.
Alors cette spirale, tu as été le créateur, rédacteur en chef. Elle existe toujours ?
Oui, la spirale existe toujours. Elle a connu une petite pause entre 2005 et 2008. Hein, parce que c'est l'époque-là, j'étais en train de terminer le film Vampire, le documentaire. Hein. Donc, j'ai vraiment plus le temps de m'en occuper. Et puis, on l'a relancé avec l'aide de quelques amis en 2008. Hein. Je m'en occupe toujours. Le site continue sur la même lignée. Et aujourd'hui, bon, bien sûr, bah, par rapport à avant, il y a de la vidéo, il y a du son, il y a d'autres choses. Hein. Ça évolue, heureusement. Et ça reste sur la même lignée, d'ailleurs. Il n'y a pas de lignée éditoriale.
C'est ça qui est bon.
C'est chaotique, c'est chaotique par essence. Hein.
Donc, tu as plusieurs casquettes à ton actif. Tu es réalisateur, tu es journaliste. Le côté réalisateur, cela t'a pris à partir de quel moment ?
C'est un truc dont je rêvais depuis, à la rigueur, depuis, je sais pas, depuis l'adolescence. Hein. Mais à cette époque-là, c'était pas si évident d'avoir accès aux outils. Hein, je me rappelle d'années de fac où je suis vraiment passé de manière très transitoire, hein, ça m'a pas passionné. Et justement, à Saint-Charles en art plastique, je crois qu'il y avait quelque chose comme 3 caméras pour 500 étudiants. Donc autant dire qu'on pouvait quasiment pas les toucher et mettre la main dessus. Et j'ai eu la chance que le chanteur des Cosmic Wurst, qui était un groupe de hardcore parisien, quitte son poste d'objecteur de conscience dans une école d'archi. Donc j'ai pris la suite hein, en donnant objecteur de conscience et je me suis occupé pendant 2 ans du labo audiovisuel hein, d'une grande école d'archi parisienne hein, où là il y avait un matériel incroyable. Hein, personne s'en servait, personne s'en occupait. Et donc j'ai pu expérimenter pendant 2 ans avec ce matériel et commencer à faire des choses. Hein. Voilà, ça a été un peu le début. Donc là, ouais, non, la réalisation, c'est quelque chose que j'espérais toucher, mais c'était pas si simple. Hein. Enfin, aujourd'hui, tout le monde peut avoir une caméra numérique relativement facilement. C'est pas si compliqué. On peut même filmer avec son appareil photo, enfin son appareil pardon, portable, hein, si on le veut. Mais à cette époque-là, non, c'était pas la même chose. Même une caméra VHS, c'était pas si simple. Hein.
Sur ton profil Facebook, dans la page, enfin dans la catégorie opinion politique, j'ai vu un truc qui m'a amusé et interpellé. Tu as marqué Illuminati.
Ah oui, ça c'est parce que je prends beaucoup de plaisir toutes les théories de la conspiration m'amusent beaucoup. C'est quelque chose qui, encore quelques années en arrière, je pense, semblait totalement abracadabrant à la plupart des gens. Et il y a eu vraiment une sorte de glissement sur les 4 ou 5 dernières années. Et je me suis retrouvé, je sais pas, au bord du canal Saint-Martin, dans terrasse, d'un espèce de bar de branchés, avec des gens qui, a priori, avaient tout l'air de travailler dans la com ou dans la mode, hein, qui du coup parlaient très très sérieusement de théorie de la conspiration. Et je trouve ça génial hein, que d'un seul coup, il y ait cette espèce d'engouement populaire et de délire général hein, autour des Illuminati. Je veux dire, après, avec les succès en librairie des bouquins de Dan Brown.
Ouais. Enfin, et puis voilà. C'est ça qui a contribué à...
Bah, en même temps, il y a eu d'autres phénomènes qui étaient assez surprenants. Il y a le film Zeitgeist sur Internet, qui est une espèce de, comment dire, de réécriture de l'histoire de l'humanité et des grandes religions sous le prisme de la conspiration. Et le truc a juste fait un... Enfin, c'est un film qui est disponible gratuitement sur YouTube, sur toutes les plateformes de vidéos. Et qui a eu une audience, mais complètement délirante. Hein. Enfin, je veux dire, vraiment, des gens qui s'intéressaient à Lady Gaga la veille s'intéressaient à la conspiration le lendemain, quoi. Ce que je trouve fantastique. Hein. Donc voilà, c'était plus un clin d'œil à ça, ça m'amuse beaucoup.
Alors on en vient à l'écriture du livre des vampires et ensuite à la réalisation du film. Mm-hmm. Pourquoi s'intéresser particulièrement donc, à ces vampires américains ?
Pourquoi les vampires américains ? Eh bien, ça, c'est vraiment la faute de Lucas Pira que vous avez reçu récemment. Lucas est à l'origine de pas mal de détours de ma vie personnelle. C'était un hasard complet. J'étais en juillet 2002 à New York pour tout à fait autre chose. Et Lucas se trouvait sur place, lui aussi, à ce moment-là, par hasard. On ne s'était pas donné le mot. Bref, on se retrouve à New York, et je crois qu'on logeait tous les deux dans l'East Village. Hein. Et Lucas m'invite tout simplement. Il me dit, voilà, samedi prochain, je fais une suspension dans une fête organisée par un clan de vampires à Spanish Harlem. Hein. Est-ce que tu veux venir ? Moi, je dis, bah, évidemment, oui. Alors, je demande aux gens autour de moi, est-ce que vous voulez venir ? Évidemment, non. donc, je me retrouve clopin-clopant à aller à Spanish Harlem à la tombée de la nuit. Non, mais vraiment comme dans le film, hein, c'est caricatural. Hein. Et donc, à débarquer dans le lieu où la fête allait se dérouler. Alors, sur Lexington Avenue, donc une grande avenue complètement vide. Le truc vraiment, vraiment largué, quoi. Il fallait monter un espèce d'escalier. Il n'y avait aucun signe qui indiquait la salle. Hein. La salle elle-même se trouvait derrière un dojo de karaté. Enfin bon, il y avait tout, une bonne ambiance générale, quoi. Je passe les détails parce qu'il y a plein d'anecdotes. Mais in fine, je me retrouve au milieu de 400 vampires black et portoricains. Donc avec les crocs, des lentilles sur les yeux, enfin bon bref, des looks pas possibles. Et puis un truc quand même assez... Là, on n'est pas dans une fête gothique à Saint-Germain-des-Prés, quoi. Enfin, je veux dire, on est dans un truc à Spanish Harlem. Les mecs sont immenses, super baraqués. C'est des mecs du ghetto. Ouais, vampire façon plus à la Blade, quoi. Et puis donc avec Lucas, qui donc domine la scène, suspendu, avec des cathéters dans les veines, son sang qui gicle sur la scène, sur un grand drap blanc, et 400 vampires qui hurlent son nom, Lucas, Lucas. Et là je me suis dit, bon bah effectivement il y a peut-être un sujet quand même, il y a peut-être un truc à faire. Hein. Donc Lucas à la base m'a proposé de faire quelque chose pour la spirale, ce qui était déjà une excellente idée. Et puis autant l'un que l'autre, on était complètement fauchés, puisque je me rappelle qu'on s'est retrouvés tous les deux avec nos cartes bleues bloquées, qu'on y nous restait... je crois, $200 pour passer 3 semaines à New York. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai dit à Lucas, écoute, on va peut-être essayer de gagner un tout petit peu de sous avec. Hein. Donc, en rentrant à Paris, je suis allé voir les gens de Trax, hein, l'émission d'Arte, avec des photos qu'avait pris Lucas de ce clan de vampires de Spanish Harlem, les Hidden Shadows. Hein. Et puis voilà, j'ai vendu le sujet à Trax. Hein. On a trouvé une production de notre côté, Avalanche Productions. On a d'abord donc réalisé un premier reportage de 9 minutes hein, qui est passé début 2003 sur Trax. Hein. Et ensuite, de fil en aiguille, je me suis dit, il va se passer quelque chose, ça va continuer. Puis j'attendais surtout l'arrivée du phénomène en Europe. Hein. Comme tous les phénomènes comme ça, anglo-saxons, finissent par envahir le reste de l'Europe. Hein. Et effectivement, ça va être début 2004. Hein. Il y a Fazer Sebastian, qui est une figure de la scène new-yorkaise, hein, qui organisait une fête à Amsterdam, hein, la Black Zion. Hein. Donc pareil, je l'ai contacté par Internet, j'ai montré un peu patte blanche, Lucas est venu avec moi, on a pu tourner là-bas. Et à partir de là, pas mal de portes se sont ouvertes. Hein, et on a continué. Et donc le projet s'est déroulé, on peut dire globalement, de 2002 jusqu'à fin 2007, donc un peu plus de 5 ans, le temps de réaliser le film, hein, d'écrire le livre entre-temps qui est sorti chez Flammarion en 2006. Hein, et puis voilà, c'était un peu toute l'aventure vampire. Hein.
Qu'est-ce qui les attire, tous ces gens, à faire des fêtes et à se transformer en vampires ?
Dans le cas des vampires nord-américains, enfin, je vais surtout parler d'eux parce que finalement, il y a une scène... Hein, en France, mais qui est quand même relativement réduite. Hein. Mmh. Il y avait aussi déjà des expériences, on va dire, ésotériques autour du vampirisme hein, dans les années fin 60, 70, hein, autour notamment d'un personnage qui est dans le film et dans le livre qui s'appelle Jean-Paul Bourg, hein, qui est donc une sorte de figure, malheureusement d'ailleurs, pas suffisamment connue de l'underground français, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a eu son importance. Hein. Ce serait bien qu'on parle un peu plus de lui. Donc lui, effectivement, avait écrit le premier livre qui s'appelait « Le culte du vampire aujourd'hui » et un autre livre qui s'appelait, alors je mélange toujours les adjectifs, mais je pense que c'est « Romantisme noir et magie rouge hein, », où voilà, il surfait un peu d'un côté sur une sorte de mystique luciférienne, hein, avec éventuellement même, je crois qu'il a eu des contacts épistolaires à cette époque-là avec Manson à la grande époque, donc ça fait 1969. Voilà, donc il y avait quelque chose en France. France. Ça s'est un peu retrouvé dans les débuts de la Cold Wave, hein, dont on parlait plus tôt. Je crois qu'il y avait un club à Paris qui s'appelait la Cébal de mémoire, hein, qui centralisait un peu tout ça. Donc voilà, mais bon, bref, surtout, enfin si le vampirisme tel que nous on l'a suivi, ce qui nous intéressait, c'était vraiment ce que les Nord-Américains en ont fait. Donc à la base, c'est une espèce de rencontre un peu bizarre, hein, entre des films dans les années 80, où pour la première fois, les vampires ne sont plus des espèces de contes transylvaniens, européens, avec un accent bizarre, comme le disaient les Américains eux-mêmes, hein, mais des teenagers, hein. Donc il y a eu Génération perdue, il y a eu Aux frontières de l'aube, enfin il y a eu 2-3 films comme ça qui étaient assez significatifs. Hein. Donc là, d'un seul coup, pour les gamins américains, ils disaient « Ah ben moi aussi, finalement, ça me correspond en termes d'image, hein, et de personnage, hein, donc je peux quelque part revendiquer cette appartenance. Hein. » En même temps, il y a eu le développement des jeux de rôle, hein, qui sont passés aux grandeurs nature. Hein. Et il y a eu un jeu de rôle très important à la même époque qui s'appelait Vampire la Mascarade, hein, important aux États-Unis, où du coup, enfin, pas dans la première version, mais dans des versions suivantes, hein, ils sont passés du jeu de plateau sur table, hein, au jeu grandeur nature, hein, où donc les gens s'habillaient en vampires, se déguisaient en vampires. Hein. C'est là que sont apparus les premiers Fangsmiths, hein, les gens qui font des crocs pour les vampires. Hein. Donc ça, c'est pas des crocs en plastique, c'est des crocs qui sont vraiment en acrylique dentaire, hein, comme des prothèses dentaires, hein, qui sont réalisées sur la personne, hein, d'après sa mâchoire d'origine, et ainsi de suite. Hein. Donc il y a un vrai boulot sur le truc. Il y a eu ça, et puis aussi, ça correspond... Dans les années 80 aux États-Unis, il y a ce qu'on appelait la panique satanique, hein, où les médias de masse américains ont commencé à totalement déconner. Il y a un type qui est assez connu de l'époque qui s'appelle Geraldo Rivera, qui avait son talk show, et dans son talk show, vraiment, il attisait l'angoisse des foules en disant qu'il y avait des, je ne sais plus combien, 80 000 ou 250 000 satanistes dans les États-Unis qui avaient carrément la main sur des crèches, hein, où ils faisaient de l'élevage de bébés en batterie pour leur sacrifice, enfin leurs besoins sacrificiels. Hein. Enfin voilà, donc ils étaient en plein délire extatique. Hein. Et tout ça, voilà, tout ça c'est un peu goupillé, avec bien sûr en même temps la Cold Wave qui a été très importante aux USA également, pour donner lieu à une nouvelle subculture complètement mutante, hein, où finalement ils ont passé le pas en se disant, bah maintenant effectivement, non, on considère qu'on est humain, mais qu'on est un peu différent. Et donc, on est autre chose, on a une autre nature. Alors, c'est à la fois aussi un système de pensée, on peut dire quasi philosophique, hein, avec une sorte de, comment dire, sorte de reconnaissance d'une nature prédatrice, on va dire. Hein. Mais bon, quand on suit le truc, c'est un peu compliqué, encore une fois, à raconter là comme ça. C'est vraiment une sorte de mixité un peu étrange, hein, mais c'est assez logique, hein, entre l'église de Satan californienne dans les années 70, hein, les phénomènes que je viens d'évoquer. Finalement, ça pouvait vraiment donner naissance à ça. Et encore une fois, pas très étonnant que ce soit né à New York. Hein, parce que quand on connaît un peu New York, on se balade dedans, il y a quelque chose d'extrêmement gothique dans la ville. Hein. Mm. D'ailleurs, Gotham, hein, qui est la ville de Batman, en réalité, c'est New York. Hein. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais c'était un auteur du 19e siècle américain qui avait donné le surnom de Gotham à New York. Hein. C'était un peu le double maléfique de New York. Hein. Et voilà, et quand on se promène à New York, je veux dire, ça fait totalement sens, quoi. C'est relativement évident. New York, la nuit, en plus une ville qui vit 24h sur 24, hein. Donc voilà, enfin bon, bref, c'était un peu la mec idéal pour une sorte de vampirisme naissant.
Cette représentation dans Spanish Harlem avec donc des Afro-Américains et des gens donc de Porto Rico, est-ce que ça viendrait pas leur intérêt à ce mysticisme de Dracula, enfin du vampire, ne viendrait pas de leurs origines, pour les Porto Ricains, de cette Espagne intégriste catho, avec le Lucifer toujours dominant, et ceux des Afro-Américains qui ont quand même baigné très souvent dans des atmosphères un peu vaudou avec des religions polythéistes.
Si, ça, je pense qu'il y a vraiment de ça, effectivement. Il y a toutes les, il y a tous les syncrétismes caribéens, et ainsi de suite, oui, avec le vaudou, effectivement, avec une culture qui est très imprégnée par une symbolique de la mort, hein, avec beaucoup de représentations de cette symbolique de la mort, d'ailleurs, hein, je veux dire, Baron Samedi, les Lois, enfin, ainsi de suite, hein, on peut en parler des heures, hein. Donc oui, il y a vraiment cet aspect-là qui est important. Bien sûr, une forme de catholicisme qui, pour le coup, n'est pas du tout débarrassée de ses oripeaux médiévaux.
Tout à fait. Ouais, ouais.
Je veux dire, il y a vraiment ce côté sanguinolent. Enfin, les Christ en croix saignent. Hein. Je veux dire, c'est pas.
On en retrouve la même chose en Espagne, dans leur pèlerinage, hein. Où ils se flagellent.
Oui,
même
dans le sud de la France, à Perpignan, il y a toujours les processions de la Sanque, hein, où les notables, effectivement, se flagellent en marchant pieds nus, en portant des rétables qui pèsent une tonne. Ouais, non, bien sûr, tout ça est, à mon avis, il y a une logique assez évidente. Hein. Après, bon, il y a aussi autre chose. Enfin, encore une fois, je pense qu'il y a tout un faisceau de paramètres. Hein. Il y a donc ça, et il y a aussi, je crois que c'est Marvel dans les années 70, hein, qui, pour surfer sur l'émancipation des Noirs américains, s'est dit, on va sortir des super-héros noirs. Hein. Et donc, c'est là qu'ils avaient sorti Blade, hein, qui, à l'époque, était un chasseur de vampires avec une coupe afro, vraiment à l'ancienne, avec plutôt un look à la Huggy les bons tuyaux. Et puis, bon, voilà, de fil en aiguille, le personnage a évolué et est devenu le truc avec Wesley Snipes au cinéma. Et je pense que ça aussi, ça joue un rôle très important, parce que ça leur a donné, comme dans le cas du teenager blanc américain qui s'est reconnu dans certains films de la fin des années 80, du coup, les afro-américains et les portoricains ont pu se dire « Ah, mais là, on a un personnage Blade qui nous ressemble, qui est comme nous, c'est un acteur noir, Wesley Snipes, qui l'incarne au cinéma, et du coup, on est dedans. » En plus, tout ça mélangé avec la culture des arts martiaux, qui est très très importante dans la communauté afro-américaine. Hein. Donc il y avait tout pour servir de détonateur finalement.
Alors tous ces gens, en dehors de ces soirées où ils se retrouvent tous, où il y a le spectacle, il y a des espèces d'orgies, je pense qu'ils boivent, ils mangent, enfin bon, et ils font autre chose aussi, mais quelle est leur vie de tous les jours en dehors de ça ?
C'est extrêmement varié. Dans notre premier jour de tournage, on était à Jamaica, dans le Queens, qui est un quartier qui a une heure et demie de métro de Manhattan. Hein. Vraiment dur et difficile. Hein. On l'a pris le lendemain d'ailleurs, mais la veille de notre tournage, il y avait une fusillade entre les gangs et la police qui avait fait 8 morts, hein, à 100 mètres de l'endroit où on tournait. Et là, les deux vampires que nous sommes allés interviewer, donc Saint-Anthony et Miguel Valentin, sortaient chacun de 5 et 6 ans de prison. Sachant que Miguel avait, je pense, 22 ans à l'époque, donc il avait dû prendre une condamnation de 6 ans pour une première peine à l'âge de 16 ans, donc un truc assez lourd. Après, ça ne se fait pas de demander aux gens, quand ils veulent pas le dire, quelles ont été les raisons de leur condamnation, donc j'ai pas posé la question. Mais donc là, voilà, on est dans un truc quand même relativement dur, un studio de tatouage, au sous-sol d'un supermarché particulièrement décati, dans un quartier vraiment dur. Voilà, ça c'est une version du truc. Après, au fil des tournages, on a autant eu une personne que j'ai dû gommer du film d'ailleurs, parce qu'il faisait partie de l'équipe de campagne d'un sénateur républicain. On a eu des avocats, on a eu des gens vraiment très différents les uns des autres. Juste pour donner un exemple qui sera parlant, sur New York, à ce moment-là, il comptait environ 60 clans de vampires. Chaque clan étant finalement relié à un territoire. Alors les plus grands clans, ça devait être les Hidden Shadows qui étaient 70-80, ensuite la House Pension dans le Bronx qui était 300, après les clans pouvaient compter 5 individus, mais donc il y avait aussi des clans dans les quartiers chics hein, et riches. Hein. Donc ce qui fait que le vampirisme n'est pas du tout limité à une communauté ethnique, hein, à une zone, hein. C'est vraiment quelque chose qui est très large, hein. Et ça touche toutes sortes de gens, toutes sortes de populations, tous les âges aussi. Hein. Les clans de vampires refusent pour des raisons évidentes les mineurs, hein. D'autant plus que les lois américaines sont particulièrement dures là-dessus. Mais passé l'âge de la majorité, finalement, on a eu, enfin, ça allait de 18 ou 21 ans jusqu'à, je sais pas, moi, 60, 70, quoi. Enfin, c'était vraiment, vraiment large et varié. Je pense que ça tient à la culture américaine qui est quand même beaucoup plus décomplexée à ce niveau-là. Par exemple, dans les scènes punk, cold wave, new wave aux États-Unis, il y a toujours eu des Noirs, il y a toujours eu des Mexicains, il y a toujours eu des Portoricains. Alors que, je veux dire, les Noirs dans la scène punk française, oui, il y en avait quelques-uns, mais c'était quand même relativement rare. Hein. Il y avait une ségrégation de facto en France, hein, ou en Europe d'ailleurs, hein, qu'il n'y a pas là-bas. C'est difficile, on ne peut pas définir le vampirisme comme étant quelque chose lié à une population particulière. Hein. C'est beaucoup plus large que ça.
concrètement, qu'est-ce qu'ils font quand ils disent vampire? Parce que nous, on s'imagine le vampire qui va sucer le sang, qui va tuer quelqu'un pour le bouffer. Est-ce qu'à un moment, vous avez...
Il le suce.
Enfin oui, il le vide de son sang. Est-ce que par moment, vous avez eu peur? Est-ce que vous vous êtes dit, putain, là, ils vont peut-être pas... ils vont se faire un délire avec...
Non, peur des vampires, non. Enfin, je veux dire, même si dans certains cas, on serait quand même avec des gens qui n'ont du ghetto et qui n'avaient pas un rapport forcément très évident à l'autre. Hein. Mais non, si... Enfin, personnellement, mes inquiétudes sont beaucoup plus venues de leur environnement que d'eux-mêmes. Hein.
D'accord.
Dire, voilà, oui, effectivement, quand on se balade, je ne sais pas, même à la Nouvelle-Orléans, par exemple, il y a le quartier français où les festivités se passent, hein, et on passe trois rues, et là, on tombe dans un ghetto noir où ça rigole vraiment pas du tout. Quoi. Donc c'était plus ça, finalement. C'était plus leur environnement qu'eux-mêmes.
Hein.
Non. Eux-mêmes, à la rigueur, ont plus tendance à essayer de raccrocher à des... pas à des codes, hein, à leur vision fantasmatique, hein, de ce que peuvent être des codes européens, des codes comportementaux européens et en plus anciens. Donc voilà, il y a toute une espèce de fantasme victorien, voire médiéval. Donc au contraire, ils ont presque vraiment beaucoup plus tendance à essayer de se comporter comme des gentlemen, à retrouver une forme d'élégance oubliée. On est plus là-dedans. Une vampire m'a dit, d'une manière assez juste, m'a dit que dans le vampirisme, il n'y avait pas l'espèce de lumière violente et fluorescente qui avait amené le XXe siècle. Avec la technologie. Et finalement, c'est ça. Ils essaient vraiment de retrouver quelque chose d'ancien, d'un autre temps. Donc, ce qui fait, en tant qu'individu, c'est pas si agressif et si désagréable. Hein.
Est-ce qu'il y a une différence entre eux et ce qu'on appelle les gothiques, je veux dire, dans la représentation vestimentaire ou autre?
Non, c'est relativement proche. D'autant qu'à New York, maintenant, ils ont tendance à tout mettre dans une espèce de panier général, la dark culture, la culture sombre, hein, qui englobe tout ce qui est gothique, tout ce qui est vampire, hein, tout ce qui est fétichiste, hein, et également une partie de la scène SM. Hein. Donc finalement, tout ça fait plus qu'une sorte de grand tout, où les vampires sont une composante très importante, hein, mais voilà, mais qui se mélange allègrement avec le reste. Hein. Donc il n'y a plus vraiment de scission, de différence, tout ça est lié.
Tu parlais tout à l'heure de différents groupuscules qui existaient par exemple à New York. Est-ce qu'ils arrivent à se mélanger au moment, une fois dans l'année ou deux fois dans l'année, pour des, pour des représentations particulières?
Oui, de toute façon, toute la scène est très liée. Après, que les gens s'apprécient, c'est encore une autre histoire. Hein. Il y a forcément des tensions entre les clans. C'est pas une religion. Certains clans vont être, on va dire, d'obédience satanique. D'autres clans vont se rapprocher de la Wicca, qui est une sorte de renouveau d'une sorcellerie païenne, hein, apparue en Angleterre juste après la Seconde Guerre mondiale. Hein. D'autres clans vont être éventuellement, pourquoi pas, complètement athées et avoir une autre approche. Hein. D'autres clans vont s'intéresser à la mystique antique égyptienne. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de différences. Hein. Il peut y avoir des tensions entre les gens. Maintenant, ils se connaissent tous, hein, quasi, et ils se retrouvent tous, effectivement, à l'occasion de grandes fêtes. Hein. Il y a le Dragon Festival, le festival du dragon, en début d'année, chaque année. Et puis, il y a, bien sûr, Halloween, avec Samhain, le jour des morts. Là, ça fait partie, effectivement, des grandes festivités évidentes chez eux. Et donc, tout ça se mélange, hein. Plutôt allègrement, d'ailleurs.
J'ai en tête un musicien américain, un chanteur américain qui est Marilyn Manson, qui a été reconnu souvent sur les scènes pour ses exacerbations du sang et autres. Est-ce qu'il est reconnu comme un des leurs?
Non, pas du tout. D'un côté, c'est une culture qui aujourd'hui est apparue dans les médias. Il y a quelques porte-paroles de la scène qui sont vraiment à la télévision et même d'ailleurs l'une d'entre elles, Michelle Bélanger, qui est vraiment très présente à la télévision américaine aujourd'hui. Je crois qu'elle fait partie d'un pool d'animateurs d'une émission sur le paranormal, hein. Donc ça a donné une forme de représentation dans les médias américains. Mais à côté de ça, mais c'est assez récent, et jusque là cette subculture tenait vraiment à rester très secrète, hein. Donc ils apparaissaient pas dans les médias. Il y avait eu un fait divers surtout en 96 de mémoire, hein, où Susan Walsh, une journaliste qui enquêtait pour le Village Voice, hein, à New York, hein, sur les premiers clans de vampires de l'East Village, hein, avait disparu. D'ailleurs, elle a toujours, enfin, on l'a jamais retrouvée. Elle a complètement disparu, ce qui avait bien sûr éveillé la curiosité des médias américains, qui y étaient allés avec leur finesse habituelle sur le sujet. Après, dans les mêmes périodes, hein, y avait Rod Ferrell, un gamin du Kentucky, si je dis pas de bêtises, hein, qui, avec son clan de vampires, avait mené une sorte d'odyssée meurtrière et avait tué la famille d'une peut-être pas d'une membre de son clan, mais enfin d'une fille qui était proche. Hein. Donc il y a eu comme ça deux, trois faits divers hein, qui avaient vraiment jeté l'opprobre sur les vampires. Hein. Donc à partir de là, il s'était tenu très secret. Et d'ailleurs, le documentaire qu'on a fait est vraiment un truc relativement unique parce qu'on a eu beaucoup de gens qui, jusque-là, refusaient de parler aux médias et c'était vraiment leur, leur première apparition. Et pour certains, la première et la dernière. Hein. Enfin, les Hidden Châteaux ne sont jamais passés dans aucune autre émission ou aucun autre truc, hein, à l'exception donc, de ce qu'on a fait pour Trax et puis du film qui en découlait. Donc c'est vraiment des gens qui sont secrets. Donc pour en venir à Marilyn Manson, non, bah, finalement, non, il y a vraiment une, pour eux, il y a une totale différence qui ne les empêcheront pas de passer du Marilyn Manson dans leur fête. Hein.
Oui,
mais en tout cas, ils ne le reconnaissent pas du tout comme faisant partie de la communauté. Mm-hmm. Et puis Manson, lui, de toute façon, revendiquait, parce que je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui, son appartenance à l'église de Satan, qui est encore autre chose et encore une autre tribu à part. Hein.
Quand tu as filmé dans Spanish Harlem, il a bien fallu avoir leurs accords. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'ils ont vu une opportunité pour se faire connaître et pour se faire comprendre? Comment a été leur vision à ce moment-là?
Bon, se faire connaître et se faire comprendre, alors là, ça faisait clairement pas partie de leurs préoccupations. Hein. Mm-hmm. Donc, ça, ils s'en foutaient radicalement. Le contact s'est réellement établi grâce et à travers Lucas Spira. Sans Lucas, de toute façon, j'aurais pas forcément entendu parler du phénomène en tant que tel. Hein. Enfin, j'avais lu un article dessus dans un fanzine Boeing Boeing quelques années avant à propos de la Californie, mais c'est vraiment la seule info que j'avais eue sur les vampires. Hein. Donc voilà, non, ça s'est vraiment fait par l'intermédiaire de Lucas, et avec Lucas d'ailleurs, hein, puisque Lucas est dans le projet complètement à 100%, et c'était la seule manière de les convaincre et de leur faire accepter le truc. Hein. Après, je pense qu'ils étaient un peu flattés quelque part que des Européens s'intéressent à eux, parce qu'encore une fois, ils ont cette vision fantasmatique de l'Europe hein, comme étant vraiment un territoire d'une grande richesse culturelle et ainsi de suite. Hein. Mais ça dépassait pas ce stade-là.
Et comment ont-ils reçu le film quand ils l'ont vu ?
La réception du film était assez partagée. Donc le film, j'ai terminé le film en novembre 2007 et il est sorti quasi le même mois en Australie et en Nouvelle-Zélande hein, en DVD. Ce qui fait qu'il a été piraté dans la semaine qui a suivi. Et donc on voulait organiser une projection du film à New York avec Lucas pour remercier les vampires. Notre projet est un peu tombé court puisque tous les vampires l'avaient déjà récupéré en peer-to-peer sur Internet. Et puis les réactions ont été partagées. Alors déjà dans le film, on a été jusqu'à montrer des rituels avec du sang humain. Ce qui chez eux est pas forcément tout le temps bien vu. Pour deux raisons. Déjà, la communauté vampire est scindée en deux. Il y a les vampires sanguins qui consomment du sang comme leur nom l'indique. Hein. Et les vampires psychiques hein, qui disent se nourrir de l'énergie vitale des humains. Énergie vitale qu'on pourrait comparer au ki ou au chi en acupuncture ou en médecine orientale. Hein. Et il y a un peu une guerre entre les deux factions. Ce qui fait que donc voilà, le sang sujet tabou, le sang c'est pas bien, le sang c'est la maladie, le sang c'est tout ça quoi. Donc que ce sang soit représenté dans le film, ça en a choqué beaucoup. Et puis ensuite, bon, il y a eu aussi des conflits d'égo assez évidents où des personnes qui n'étaient pas dans le film ont critiqué le film parce que les autres y étaient, pas eux, donc voilà, pas contents, normal. Hein. Et puis encore après, il y a eu encore autre chose où des gens se plaignaient de ce que les grands anciens de la scène vampirique hein, et révéler des secrets devant une caméra et ainsi de suite. Hein. Bon voilà. Bon donc il y a eu un peu ces trois raisons de discorde. Hein. Mais maintenant il reste que majoritairement non ils sont plutôt contents. Ils trouvent que l'image qu'on a donnée d'eux était fidèle. Hein. Et voilà donc que c'était un boulot relativement honnête hein, et varié dans le sens où effectivement on est interviewé des gens qui finalement s'apprécient pas les uns les autres dans la scène, hein, qui ont donné leur version de l'histoire de leur mystique. Hein. Oui, donc voilà, donc ça s'est plutôt pas si mal passé que ça au final.
Quelle est la possibilité pour nos auditeurs de voir ce film?
Bah, tout simplement de l'acheter, puisqu'il est distribué en France, le DVD, et dans le commerce. Hein. On le trouve peut-être pas partout, parce que c'est pas une grande distribution. Et sinon, il faut aller sur le site du distributeur, qui s'appelle donc Le Chat qui fume, hein, et dont le site est tout simplement lechatquifume.com. Hein. Comme on peut imaginer, enfin épeler sans faire de faute d'orthographe.
Visiblement, l'éditeur Flammarion a été également intéressé par le sujet des vampires. Comment cela s'est expliqué, ça? Est-ce que c'était une opportunité pour faire découvrir quelque chose que l'on ne connaissait pas, ou l'attirance de groupuscules underground qui titille nos angoisses et nous fait fantasmer?
Comme souvent, c'est une question de rencontre. J'ai eu la chance de croiser Laurent Chollet, qui dirige la collection Pop Culture chez Flammarion, qui d'ailleurs, à peu près à cette époque-là, avait sorti entre autres choses, parce qu'il a une production assez, assez large et variée, mais qui avait sorti la biographie de, officielle, enfin l'autobiographie même d'ailleurs, de Sonny Barger, hein, qui est un peu le fondateur et la figure tutélaire d'Hells Angels, hein, américain. Et Laurent étant un vrai fan, un vrai collectionneur et un vrai spécialiste, hein, de l'underground sous toutes ses formes et toutes ses incarnations, finalement ben, on arrivait avec une nouvelle proposition, quelque chose de pas connu, un nouveau truc sur la table, hein, et je pense que ça excitait sa curiosité, et puis il se disait qu'éventuellement avec la figure du vampire il y avait peut-être effectivement un petit coup éditorial à faire, hein. Donc voilà, malheureusement et heureusement, enfin j'en sais rien, je sais pas quoi en penser d'ailleurs, hein, on est arrivé quelques années avant Twilight et le gros débarroulage vampirique dans l'industrie du divertissement. Ce qui fait qu'on n'a sans doute pas connu les ventes que Flammarion aurait espérées. Mais bon, c'est rarement le cas avec ce genre de truc.
Il n'y a pas eu un rebondissement, justement?
Non, 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 étrangement, non, mais ça c'est vraiment de la part de Flammarion. Je pense que c'est une grosse maison avec des rouages assez lourds. Hein. Donc ils n'ont pas pris l'option de rebondir à ce moment-là. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, mais soit. Hein. Nous par contre, on a eu la chance de sortir le film un peu sur le sommet de la vague. Hein. Ce qui a aidé, ce qui a permis effectivement d'avoir un peu plus d'attention de plateau télé et de trucs, quoi.
Alors qu'est-ce qui t'intéresse maintenant?
Qu'est-ce qui m'intéresse?
Parce que une fois qu'on a travaillé comme ça sur les vampires, mm-hmm. est-ce qu'on a envie de replonger dedans ou on s'ouvre vraiment à autre chose?
Non, non, on m'a proposé de faire les Hells Angels à Montréal. Hein. J'ai refusé pour diverses raisons, la plus évidente étant que bon là on est quand même dans des structures plus costaudes, enfin c'est une autre histoire, hein, avec un dessous des cartes qui est pas le même. Hein. Donc je voyais pas ce que je pouvais faire d'intéressant sur ce sujet-là, en tout cas sans me mettre en danger. j'ai hésité un tout petit peu, mais je l'ai pas fait, partir sur les loups-garous en Scandinavie. Parce qu'il y a des ordres, ésotériques qui eux vont travailler sur effectivement le loup-garou comme totem, on va dire, mm-hmm. qui donc réalise des rituels nus, couverts de sang humain dans la neige en plein hiver, hein, ce qui peut avoir son charme d'un point de vue visuel, hein, mais je pense que j'aurais eu l'impression de faire une redite quand même. Hein. Donc là, donc là on est parti sur différents sujets. Enfin d'un côté, je travaille à la demeure du chaos, qui est un lieu assez particulier en région lyonnaise. Hein. On bosse aujourd'hui sur un long métrage de fiction que je réalise, hein, pour le compte de Thierry Herman, qui est l'initiateur du lieu, et puis le principal artiste, hein, et ainsi que deux livres, hein, qui tournent autour de la demeure du chaos également. Et du coup, on a lancé aussi un nouveau projet, avec Lucas Pira, qui s'appelle The Tour, hein, qui est donc une sorte de road movie. C'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps, depuis 4 ou 5 ans, puisque Lucas, comme il a dû vous l'expliquer, vit sur la route et dans les avions la majeure partie de l'année, et avec une forme de nomadisme qui est assez particulière, enfin, je veux dire, où il se passe quand même beaucoup de choses, hein. Il documente, il photographie, il rencontre pas mal de gens intéressants. Et donc voilà, ce nomadisme m'intéressait vraiment, je trouvais qu'il y avait quelque chose à chercher là-dedans, et donc ce documentaire The Tour, qu'on a commencé à tourner au mois de septembre dernier, va être une sorte de polaroid, d'instantané de l'état du monde, hein, avec Lucas, Atomy et Maëlys comme fil rouge, hein. Et on va passer vraiment des hauts fonds aux bas fonds, les bas fonds pouvant être une rencontre avec un chef des narcotrafiquants à Tijuana, et les hauts fonds pouvant être une rencontre avec le numéro 1 de Carlyle en Europe, hein. Donc qui habite à Genève dans une propriété somptueuse au bord du lac, hein. Donc voilà, là vraiment c'est un peu ça, c'est vraiment aller sur les 5 continents dans des univers relatifs, enfin même extrêmement différents, même extrêmement, puisque c'est vraiment aux extrêmes, hein, complètement opposés, et donner un peu comme ça une sorte de vision, certes un peu délirante, toujours un peu mondo, mais qui nous parle en tout cas de l'état du monde actuel, hein. Donc voilà, d'un côté il y a demeure du chaos, où là c'est une sorte de mélange entre, difficile à résumer, entre art, mysticisme, il y a tout un univers qui est développé par Thierry, qui est pas le mien, d'ailleurs propre, hein. Moi j'arrive vraiment là-bas pour réaliser un film entre guillemets de commande, hein. Et puis The Tour de l'autre côté.
Christophe.
La question habituelle. Le slogan de notre radio, l'art est retombé aux mains d'une certaine aristocratie qui, si elle ne censure plus les contre-cultures, les ignore. Elle se nourrit de ses propres déchets, produisant ainsi un art insipide et consensuel. C'est face à cette culture autophage que les contre-cultures prennent tout leur sens. Qu'est-ce que ça t'inspire ?
Je suis pas en accord sur tout dans cette phrase. C'est-à-dire que je pense que le recyclage des contre-cultures, des cultures marginales, des cultures alternatives. Alors là, il parle des milieux de l'art, hein, donc c'est spécifique. Mais c'est quelque chose de permanent. Enfin, je veux dire, Warhol le faisait déjà à l'époque de la Factory. Je pense que voilà. Enfin, ça me semble être un cycle finalement relativement évident qui peut-être aujourd'hui a évolué dans ce qu'il est plus rapide qu'avant. L'industrie du divertissement, les milieux de l'art, hein, je pense, récupèrent plus facilement et plus vite. Hein. Déjà, ils ont plus rapidement vent de ce qui se fait, puisqu'il y a Internet, tout simplement. Alors qu'avant, il fallait aller dans les boutiques impossibles du quartier latin, acheter des fanzines obscures, hein, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Autophages, non, je pense que non. Pour moi, je pense qu'ils ne sont pas si autophages que ça. Et qu'il y a une passerelle, et qu'il y a toujours des artistes qui vont aller piocher dans ce qui se passe de nouveau à travers le monde, hein, pour aller le refourguer dans les galeries et les musées. Qui veulent les accueillir. Personnellement, je sais pas, quand je vais rarement faire un pèlerinage au palais de Tokyo, j'ai tous mes poils se hérissent parce que je pense que c'est à peu près l'exacte représentation de ce genre de phénomène. Hein. Et c'est malheureusement appelé à perdurer.
Très bien. Eh bien, je remercie Laurent Courreau d'être venu nous voir, d'avoir accepté de se livrer un peu et de nous avoir parlé de ces fameux vampires.
Merci à vous, entre autres.
Merci Christophe Bouillot d'être venu.
Avec plaisir.
Et puis à très bientôt à tous les deux.
Merci.
Autre radio, autre culture. Au revoir. Autre radio, autre culture.